j'ai commencé par vous dire ma sorte d'émotion de voir des visages connus, peut-être pas vus depuis longtemps, mais voilà, c'était très plaisir. Puis plaisir de voir des visages non connus aussi, bien sûr. Alors, je pensais lire le texte d'Acte 2. Alors, on a lu quelques versets. Simplement, rappeler que c'est le seul texte, sauf erreur, hein, qui évoque cet événement de la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Alors, il est question de l'Esprit ailleurs, mais il n'y a que Luc qui nous donne cet événement, et surtout sa date, c'est-à-dire la fête de Pentecôte. Et de même, il est aussi le seul à nous donner la date de l'Ascension. Alors, il est question de l'élévation du Seigneur hein, dans les autres évangiles et puis dans les Épîtres, mais c'est Luc qui dit que c'était à la fête de Pentecôte, et c'est Luc qui nous dit que c'était 40 jours après la résurrection. Et donc, si nous avons des jours de congé, le jeudi de l'Ascension et puis le week-end de Pentecôte, eh bien, on peut être reconnaissant à l'auteur Luc qui a pris soin de nous donner ces informations, ces dates, hein, pour retenir ces fêtes. Alors voilà, donc, comme c'est la Pentecôte, alors on l'a lu, on l'a beaucoup évoqué, l'Esprit, donc je vais quand même faire cette lecture. Hein, c'est toujours bien de commencer par la parole de Dieu, mais mon sujet sera plus vaste. Et en fait, je me suis un peu simplifié la vie parce que dans les deux semaines précédentes, j'avais un travail à faire sur le projet de Luc. Et donc, c'est ça que je vais vous restituer. Et donc ensuite, on pourra peut-être avoir une lecture un petit peu différente du texte tout seul. Quoi. Parce que chaque texte des évangiles n'est pas un texte qui est tombé là par hasard, en prenant des documents ou en entendant des traditions orales, mais chaque auteur, et il y en a quatre différents, chaque auteur avait aussi un projet de transmettre la foi, et il a organisé son texte de façon intelligente, sous la direction de l'Esprit. Alors on va lire quand même ce texte d'Acte 2, on va le relire, disons, un peu plus complètement. Donc Acte 2, à partir du verset 1er. Bon, je suis dans la nouvelle Bible Second, hein, mais c'est une traduction aussi assez littérale. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Donc jusqu'ici, la lecture. Alors simplement, avant de commencer ce déroulé du projet de Luc, peut-être se poser une question. Alors on y a, je pense, répondu à travers ce qui a été exprimé dans la première partie de ce culte, mais une question. Mais qu'est-ce qui est important dans ce texte qu'on a lu? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Qu'est-ce qui est important? Il peut y avoir plusieurs choses. Alors, je vous laisse méditer. En même temps, je vais passer donc à ce sujet. Donc, essayer de repérer donc dans l'évangile de Luc ce ce qui pourrait être son projet. Alors, il y a beaucoup d'éléments, et je ne vais aborder qu'un seul sujet qui est déjà assez vaste. C'est que Luc cherche à montrer que les événements qui se produisent à travers la vie, le ministère de Jésus, en fait, sont conduits par Dieu. C'est un projet divin qui date très loin en arrière et que c'est lui qui conduit ces événements. Et Luc va utiliser un certain nombre de procédés, on va dire procédés littéraires, pour exprimer ça de façon assez variée. Et puis, si l'évangile de Luc en lui-même va parler de la vie, du ministère sur terre de Jésus, alors là, je vais citer un auteur qui dit que le livre des Actes aurait pu se nommer, et selon une formule qu'on trouve au début du livre des Actes, ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner. Et donc, pour s'intéresser au ministère de Jésus, on va prendre même l'œuvre complète de Luc, c'est-à-dire l'évangile de Luc et les Actes des apôtres. Puisque dans les Actes, c'est le ministère de Jésus qui s'accomplit par son esprit. Donc dans l'ensemble évangile-acte, on voit que Luc donne une place essentielle au plan de Dieu, comme je l'ai dit, avec différents procédés littéraires. Donc c'est une sorte de mise en scène qu'on peut nommer orchestration divine, comme si Dieu était à la tête d'un orchestre là et déroulait son plan. Alors ça va être assez synthétique, je ne vais pas lire tous les versets parce qu'il y en a bien sûr dans l'évangile et les actes. Donc ça sera une courte synthèse. On va commencer par une expression qu'on trouve dans l'évangile de Luc, c'est l'expression en grec « déi », on verra ce que ça veut dire, il fallait que. Et puis ensuite on passera sur, j'ajouterai un petit élément, c'est une autre expression, c'est « semeron » qui veut dire « aussitôt ». Ça c'est pas dans le plan divin, mais c'est ce que Luc utilise, c'est intéressant de mettre ensemble. Et puis on verra ensuite deux thèmes qui traversent l'ensemble Luc-Acte, et puis on terminera par aussi des procédés littéraires qui vont structurer le livre des Actes, toujours dans cette optique de montrer le plan divin qui s'accomplit. Alors on va commencer, premier point donc c'est l'expression « déi » dans l'évangile de Luc, donc qui est souvent traduit par « il faut que » ou selon la tournure de phrase « il fallait que ». Ça met en évidence donc que les événements du ministère de Jésus se produisent parce que Dieu est en train de mettre en œuvre son projet, donc conçu longtemps auparavant. Et alors la première fois qu'il y a cette expression, on peut dire que ça annonce le programme, c'est quand Jésus, alors c'est dans Acte, pour ceux qui veulent suivre avec leur Bible, ce qui est une bonne chose, dans Acte 2, verset 49, on va trouver Jésus qui, à l'âge de 12 ans, est allé, on connaît l'histoire,
dans Luc.
On commence par l'évangile de Luc. Jésus qui donc est allé avec ses parents à la fête, et puis au bout de 3 jours, ils sont en train de retourner chez eux, et puis Jésus n'est pas là, et puis ils le retrouvent finalement au bout de 3 jours dans le temple avec les docteurs de la loi, et Jésus leur dit qu'il faut qu'il soit aux affaires de son père. Et donc, tous les déis qu'on va trouver dans l'évangile de Luc vont concerner les affaires du Père. Vous voyez, comme c'est une construction vraiment... Alors, ça va des fois concerner, parce qu'il faut que faire des choses de la loi, donc ça reste le plan de Dieu, mais plus d'une façon plus précise, ça va être parce que Jésus dit « il faut annoncer la bonne nouvelle aux villes de Galilée », chapitre 4, 43, où... quand il va, vers la fin de l'évangile, quand il va rencontrer Zachée, il va dire « il faut demeurer dans la maison de Zachée ». Et puis après, il va dire « il fallait que le salut parvienne à cette maison ». Vous voyez, c'est insistances sur ce « il faut ». Et alors, bien entendu, la plupart des « il faut que », les déi, vont concerner soit l'annonce, soit l'explication des souffrances, de la mort du Christ. Donc Jésus qui soit annonce, soit qui après coup explique. Alors chapitre 9, 22, 13, 33, 17, 25, 19, 5, 22, 37, 24, 7. Hein, enfin, chacun peut retrouver ça dans sa Bible. Et l'évangile de Luc se termine par un dernier « il fallait que ». C'est quand Jésus explique les Écritures, toutes les Écritures à ses disciples, et il fallait que toutes les choses qui sont écrites à son sujet s'accomplissent. Alors voyez cette façon qu'a Luc de travailler avec une expression pour vraiment dire qu'il y avait une nécessité. Et donc, comme je l'ai dit, je vais mentionner en complément une autre expression qui est caractéristique de l'Évangile, c'est l'utilisation d'un mot en grec, donc c'est séméron, peu importe, mais c'est, on traduit par « aujourd'hui ». Et on le trouve 11 fois. Alors, si on reprend l'histoire de Zachée, Jésus dit « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Et puis, quand il va parler du salut, il va dire « le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Alors, la première fois qu'on trouve ce terme aujourd'hui, c'est l'annonce que font les anges aux bergers, au début de l'Évangile. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur », référence chapitre 2, verset 11. Et puis, au début du ministère de Jésus, il y a un texte très important que Luc va placer au début, c'est quand il est à la synagogue de Nazareth, chapitre 4, et que Jésus, on lui demande de lire la Torah, et il va chercher dans les prophètes, et il va lire Ésaïe 61, et après la lecture, l'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Il s'assied, alors tous les regards se tournent vers lui, et il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, parce que voilà, ils l'ont entendu. On peut citer encore une parole de Jésus aussi qui est très forte, c'est bien sûr quand il est sur la croix, il y a ce brigand repentant qui est là, et la réponse de Jésus c'est « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Alors je vous propose déjà, à partir de ces deux éléments qu'on a vus dans l'évangile de Luc, se dire « mais pour nous, alors aujourd'hui ». Alors le plan de Dieu, aujourd'hui. On peut dire encore « le salut de Dieu est encore pour nous aujourd'hui ». Et c'est associé au « il faut que ». Il fallait que Jésus offre sa vie pour le salut du monde. Et ce salut est encore pour nous aujourd'hui. Et vous voyez, Luc va utiliser la narration. Il raconte une histoire, il place des éléments pour dire en fait ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire cette fois de façon plus directe. Puisque dans l'Épître aux Hébreux, il est lu que c'est Jésus, enfin Dieu nous a parlé dans le Fils, que c'est par lui, il a fait la purification des péchés, il est venu, et puis il va dire, mais qu'est-ce qui va se passer si on néglige un si grand salut qui a été annoncé par le Seigneur lui-même et par ceux qui ont suivi? Et un peu plus loin, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qui rappelle un psaume, n'endurcissez pas vos cœurs. Et donc, on voit Luc, lui, qui va faire ça de façon subtile dans la narration, le « il faut » et puis « aujourd'hui ». Ensuite, on va passer à ces donc deux grands thèmes que je compléterai aussi par un autre point dans l'ensemble Évangile de Luc, Actes des Apôtres. Et là encore, il y a cette orchestration divine qui va se manifester. Le premier point qu'on peut aborder, c'est l'accomplissement des Écritures. Alors ça, on le trouve en général dans tout le Nouveau Testament, mais Luc va l'utiliser et il va l'utiliser aussi en donnant un cadre. Donc là, Luc, verset 1er, chapitre 1er, et Luc, donc là c'est quand il explique ce qu'il est en train de faire, et puis Luc 24, verset 44, donc c'est explicite, et puis de façon plus implicite dans les Actes, au chapitre 1er, versets 6 à 8, et puis à la fin des Actes, chapitre 28, verset 23. Donc on a là des éléments qui parlent de l'accomplissement des Écritures. Alors quand on est au début de l'Évangile, on a ce que certains appellent les hymnes du récit de l'enfance, et qui vont inscrire le début des événements concernant l'Évangile, dans le contexte des promesses que Dieu a faites à Israël. Alors, déjà, alors là, c'est très subtil, c'est des spécialistes du grec qui vont nous apporter ces éléments. Moi, ce n'est pas moi-même, mais voilà, ceux qui ont étudié vraiment, ont retrouvé chez Luc comme une sorte d'imitation de la traduction grecque de l'Ancien Testament. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Septante, c'est une traduction qui a été faite en Égypte, je crois qu'elle a été commandée par un des rois d'Égypte, pour que les Juifs traduisent leurs écritures d'hébreu en grec. Et cette traduction grecque a eu un impact important, puisqu'elle était reconnue dans la diaspora juive, donc ceux qui ne parlaient pas vraiment hébreu, hein, qui utilisaient le grec ou dans le contexte de la diaspora où ils étaient, et ça a été la Bible des premières communautés chrétiennes de langue grecque. Et donc, Luc va imiter le style de façon... ceux qui connaissent bien le grec disent, mais c'est de façon subtile, de façon très, très élégante. Il va faire une sorte d'imitation du style. Et puis, on a aussi les cantiques qui sont chantés par Marie et par Zacharie, qui sont truffés aussi de citations de psaumes. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les psaumes. Toujours dans l'évangile de Luc, comme on l'a vu... Donc, alors, je vais donner ces éléments dans l'évangile de Luc. Le texte que l'on a lu sur la synagogue de Nazareth, où Jésus dit « ces choses sont accomplies ». En fait, il cite Ésaïe. Donc là encore, c'est un texte qui va montrer que Jésus, l'Esprit Saint est sur lui, et puis qu'il va guérir les aveugles, etc. Il y a toutes ces bénédictions, ces guérisons pour son peuple qui sont données. Et ben, c'est en fait la lecture d'Ésaïe. Donc c'est bien là aussi le thème de l'accomplissement de ce que Ésaïe avait annoncé. Et puis autre texte aussi dans Luc je ne l'ai pas lu, mais que l'on a évoqué, c'est à la fin de l'Évangile, le chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, et en chemin, eux, ils sont découragés, celui en qui ils croyaient en fait a été crucifié, certains ont dit qu'il est ressuscité, mais bon, c'est des femmes, on ne sait pas trop, et Jésus en chemin, en commençant par Moïse et par les prophètes, leur explique qu'il fallait que le Christ souffre. Il leur explique par les Écritures. Donc là encore, accomplissement des Écritures. Et puis, un peu plus loin, donc ça c'est au verset 27 du chapitre 24, et puis au verset 44, donc on a déjà nommé, là Jésus va expliquer dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, vous voyez cette façon de donner trois éléments, en fait, c'est la façon dont on décrivait l'ensemble de l'Ancien Testament. C'est la façon dont est organisée la Bible hébraïque, en fait. Et là, Jésus va expliquer les choses qui le concernent et va même leur ouvrir l'intelligence pour comprendre ces choses. Donc là aussi, les Écritures comme socle et les Écritures qui s'accomplissent. Et puis alors après, dans le livre des Actes, là je vais passer rapidement, mais il y a de nombreuses citations de l'Ancien Testament comprises comme étant des événements qui s'accomplissent. Et ça émaille les discours des apôtres et des disciples, il n'y a pas que des apôtres. Alors on a à la Pentecôte, un peu plus loin, Pierre va expliquer avec le texte de Joël et puis d'autres textes de l'Écriture que ce qui vient de se passer, eh bien, c'était ce qui était annoncé. Le discours, autre discours de Pierre, chapitre 3 et 4, après une guérison, il va aussi expliquer, notamment devant le Sanhédrin, que c'est l'accomplissement des Écritures, et puis aux gens qui vont venir se faire baptiser. Il y a des grands nombres de conversions à ce moment-là. On a le discours d'Étienne qui est pris pour être lapidé, mais qui va dérouler pour sa défense, en fait, toute l'histoire de l'Ancien Testament pour montrer qu'il y a vraiment un plan divin qui s'accomplit. Et puis encore, on peut voir avec Paul, notamment Acte 13, il y a ce discours d'Acte 13, mais il y a aussi d'autres discours, et dans sa défense, il est là pour montrer que c'est ce qui s'est produit, c'est l'accomplissement des Écritures. Donc c'est vraiment un thème très très important chez Luc, il y a un soin dans l'ensemble de montrer l'accomplissement des Écritures. Donc le point qui va aller avec, c'est que cet accomplissement des Écritures, comment il se réalise, autre thème que Luc aborde, et là qui vient un peu nous parler en ce jour de Pentecôte, c'est que ces événements, en fait, ils sont dirigés par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et ça aussi, ça montre que c'est bien l'Esprit de Dieu qui conduit les choses, et donc c'est Dieu lui-même donc, qui orchestre tout ça. Alors, si on vient dans l'évangile de Luc, on va trouver donc le Saint-Esprit avec une action prépondérante. Ça commence, je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a énormément, mais ça commence avec la promesse qui est faite à Zacharie d'avoir un fils qui sera rempli de l'Esprit-Saint dès le ventre maternel. 1,15. Bon, Luc 1,15. Pour Marie, l'ange lui dit « L'Esprit-Saint viendra sur toi » pour qu'elle attende le bébé. 1,35. On a encore Élisabeth qui sont Élisabeth, puis Zacharie, donc verset 41 du chapitre 1er, Zacharie, verset 67, qui sont remplis d'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont remplis d'Esprit Saint? Eh bien, ils se mettent à parler. Parler ou adorer Dieu. On a l'Esprit Saint dans la scène où les parents de Jésus amènent le petit enfant au temple pour accomplir ce qui doit être accompli. On a Siméon qui survient. Eh bien, si on regarde ce qui est dit de Siméon, chapitre 2, versets 25 à 27, trois fois, l'Esprit Saint est mentionné en rapport avec Siméon. L'Esprit lui a montré, etc., puis par l'Esprit. Enfin, voilà. Comme on l'a vu, je reviens toujours à ce chapitre 4, début du chapitre 4 de Luc, où Jésus va annoncer que le texte d'Ésaïe est accompli, mais c'est que l'Esprit Saint est sur lui. Et ça marque le début de son ministère. On trouve aussi, lors de la tentation, c'est l'Esprit, alors le terme, c'est qu'il le pousse dans le désert. C'est vraiment l'Esprit qui le pousse dans le désert. Alors là, je l'avais pas noté, mais non, je passe à autre chose. Pour l'enseignement, c'est pareil, il est... Verset 4, 14, il est rempli de l'Esprit Saint. Et puis, il y a au chapitre 11 aussi un point important, puisque c'est un texte qu'on va retrouver dans un autre évangile, l'enseignement de Jésus sur la prière. Donc chapitre 11, verset 13, où il dit, voilà, vous qui êtes mauvais, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, si vous demandez un pain, vous ne donnez pas un serpent, etc. Et la conclusion, c'est... Le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc encore une fois, insistance sur la demande que l'on va faire au Père, c'est l'Esprit Saint. Et puis, alors, dans le livre des Actes, là aussi, il est question, au chapitre 1er, dès le verset 2, donc au début du livre des Actes, Luc résume un peu pour son destinataire, ce qu'il a déjà mis dans l'Évangile. Et il dit les ordres que Jésus a donnés aux apôtres par l'Esprit Saint. Et selon la parole de Jésus, ils recevront de la puissance la venue de l'Esprit Saint sur eux. Donc ça, on retrouve au chapitre 1er, versets 5 et 8, au chapitre 2, versets 4, 17, 18, 33, 38. L'Esprit Saint est mentionné énormément dans ces deux premiers chapitres. Et l'action de l'Esprit va se répéter. Alors là, je vous invite à relire le livre des Actes et voir que l'Esprit Saint, il en est énormément question. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'Esprit Saint vient, les disciples, apôtres ou autres, ils se mettent à témoigner de Jésus. Donc on voit que la venue de l'Esprit Saint est en lien avec la proclamation de la parole de Dieu. Alors on a évoqué pendant le culte que l'Esprit Saint... Il nous est donné à chaque croyant pour une transformation intérieure. Ça, on trouve ça bien entendu dans les épîtres. Chez Luc, il a une présentation assez spécifique de montrer que l'Esprit Saint, il est là pour que soit proclamée la parole de Dieu. Et on le voit dès le début, quand j'ai dit Élisabeth, Zacharie, Siméon, donc. C'est bien avant la Pentecôte, hein, c'est peut-être une trentaine d'années avant. Il y a déjà cette action de l'esprit pour que... et puis c'est l'action que fait Jésus. Et puis ensuite, à la Pentecôte, les apôtres étaient déjà croyants. Ils ne deviennent pas croyants à la Pentecôte. Mais là, à la Pentecôte, là, c'est la puissance de l'esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui est quelque part donné en vue d'un... soit d'un ministère, soit d'une action qui est en lien avec cette proclamation de la parole, cette parole qui s'accomplit, peut faire le lien. Et donc, on voit d'une façon générale, à la fois l'esprit, il y a plusieurs l'esprit qui descend sur les croyants différentes étapes, et d'une façon générale, il va diriger, et on voit aussi, je crois que c'est acte 13, on voit l'esprit parler aussi. L'Esprit Saint nous a dit que... Alors, j'ai ajouté un autre point qui n'est pas directement en lien avec l'orchestration divine, mais c'est la prière. Et je trouve que c'est bien, ça va bien avec cela pour nous. L'évangile de Luc, c'est un évangile où on voit Jésus qui prie beaucoup. On a lu le baptême ce matin dans l'évangile de Marc. Et vous avez vu, il est dit, Jésus, il est baptisé, il sort de l'eau, l'esprit descend comme une colombe. Mais on ne dit pas ce que faisait Jésus. Dans l'évangile de Luc, Jésus priait. Et on voit Jésus, multiples reprises, prier, s'isoler pour prier ou prier avec ses disciples, apprendre à ses disciples à prier. La prière est vraiment omniprésente, et en particulier la prière de Jésus. Jésus, comme modèle aussi, de celui qui prie. Et dans le... Alors, on n'a pas... Si on prend des passages parallèles dans Marc ou dans Matthieu, on ne va pas trouver cette mention de la prière. Donc, Luc fait aussi, mais un focus particulier sur le fait que Jésus prie. Et puis, il y a des invitations à prier. Alors, on voit qu'il prie, soit il y a des invitations à prier par des enseignements, par des paraboles. J'ai cité tout à l'heure la parabole où il disait, voilà, si vous demandez... enfin, si vos enfants vous demandent quelque chose, vous n'allez pas leur donner n'importe quoi. Mais de même, si vous demandez au Père l'Esprit Saint, mais c'est encore une situation de prière. Et puis, bien sûr, il y a aussi le Notre Père. Il y a une version un peu réduite par rapport à l'évangile de Matthieu du Notre Père, mais on a aussi cet enseignement à prier et à prier sans cesse. Alors, c'est Paul qui, je crois, qui utilise cette expression de prier sans cesse, mais il y a cette invitation à être dans un esprit de prière. Et... dans un cours là, que j'ai suivi sur le sujet, prier sans cesse, disait le prof, c'est pas être tout le temps, vivre sa vie de 24 en prière, mais c'est un état d'esprit. Et ce qu'il disait, c'est par exemple, ceux qui écoutent ce qui est dit, ils sont à l'écoute. Et quelque part, la prière, c'est pas que dire des choses, c'est aussi écouter. Hein, on écoute ce que Dieu a à dire, ou on écoute ce qui est transmis, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit qui doit nous habiter de façon constante. Alors, deuxième petit arrêt pour nous dire, pour nous aujourd'hui. Alors, on a lu, dans l'ensemble, Luc, Actes, accomplissement des Écritures, donc l'importance des Écritures. Il y a la direction de l'esprit. Alors, on peut dire, mais ça nous invite à nous attacher à l'étude des Écritures. Parce qu'on voit vraiment que Jésus... ouvre l'intelligence à ses disciples pour comprendre. Et puis, rechercher la direction de l'esprit. Alors, je pense que dans le Nouveau Testament, on trouve beaucoup d'encouragement à la lecture des Écritures, à la direction de l'esprit. Je pensais à Éphésiens 6, où il est parlé des armes. Il est dit la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Et puis donc, la prière. Et donc là encore, ça nous encourage... à la fois pour lire les Écritures, pour les comprendre, pour que le Seigneur ouvre notre intelligence, et puis aussi pour avoir cette direction de l'esprit, le discernement. Vous savez, il y a une scène où Jésus est sur la montagne avec trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il est question d'une transfiguration. Et on voit d'ailleurs Jésus qui prie aussi dans cette circonstance. Et quand ils redescendent, les autres disciples... Eh bien, il y a un problème parce qu'ils n'ont pas réussi à guérir un enfant qui était tourmenté par un démon. Et pourtant, Jésus leur avait donné autorité sur les démons. Mais il leur avait donné autorité, mais ce n'était pas comme si il leur avait dit « Maintenant, vous avez autorité et vous êtes des êtres autonomes. » Vous êtes comme Dieu, vous pouvez chasser les démons. Non. Et quand il demande, mais pourquoi Seigneur, on n'a pas réussi? Et Jésus dit, mais ça sort par la prière. Donc on peut comprendre en creux qu'en fait, ils avaient voulu faire quelque chose pour servir le Seigneur, mais ils n'avaient pas prié. Alors ça nous encourage, vraiment, chacun. Des fois, on est pris par l'action, alors on enchaîne les trucs. On se dit, tiens, je vais faire ça. Et puis tout d'un coup, on peut. Enfin, moi, ça m'arrive assez fréquemment de me dire, mais je n'ai pas remis au Seigneur, je n'ai pas prié, on va commencer par ça. On va commencer par ça, on remet au Seigneur, on lui fait confiance, et puis après, on avance. L'importance de la prière, direction de l'esprit, et puis encouragement à l'étude des Écritures, parce que quand je me suis converti, je me suis mis à lire la Bible, ça fait donc plus de 40 ans, et j'en découvre toujours. Alors, j'en découvre pas tout seul aussi, j'en découvre parce que j'ai des apports extérieurs. Mais vraiment, encouragement à creuser les Écritures, parce que c'est vraiment les merveilles de Dieu qu'on peut y trouver. Et enfin, je vais aborder le dernier point, des procédés littéraires qui ont un côté structurant dans les Actes des Apôtres. Donc toujours Luc qui place ces éléments, structure, pour décrire aussi le fait que le plan divin s'accomplit. Premier point qu'on peut donner, c'est au chapitre 1, verset 8, la parole de Jésus qui dit « Vous allez rester à Jérusalem pour recevoir la promesse du Père, et puis il y aura l'annonce aux nations, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, cette parole de Jésus, en fait, c'est la description du plan du livre des Actes. L'évangile est annoncé à Jérusalem, en Judée, puis en Samarie, et puis ensuite ça va jusque... Il y a Paul après qui emmène... Donc c'est une parole qui annonce le programme. C'est la parole de Jésus qui va donc structurer en fait la façon dont le récit nous est donné. Et alors il y a un autre élément, c'est ce que on appelle l'inclusion, c'est-à-dire au début et à la fin d'un texte, on a des éléments communs et qui nous montrent en fait que l'auteur a mis au début et à la fin un élément auquel on doit être attentif. Acte 1, verset 1er, il est question de ce que Jésus a fait et enseigné. Et le dernier verset du livre des Actes, chapitre 28, verset 31, il est question de Paul qui était prisonnier, mais qui pouvait continuer à enseigner. Et alors, ce que ça vient montrer, et alors l'enseignement, la proclamation de la parole de Dieu, hein, on l'a vu dans les points précédents, tout au long du livre, et il y a comme quelque chose, c'est que Jésus a enseigné, et puis ensuite les apôtres ont enseigné, et puis même Paul, quand il est en prison, il continue à enseigner. Autrement dit, rien ne peut arrêter la proclamation du message de la bonne nouvelle, cet enseignement qui est donné. Et alors tout ça, bien sûr, c'est donc les premiers derniers versets, la parole de Jésus aussi dès le début, et ensuite on trouve un refrain. Alors, là pareil, hein, il y a plusieurs fois, chapitre 2, 47, 6, 7, 9, 31, 12, 24, 16, 5, 19, 20, un refrain qui vient dire que qui fait une sorte de constat à la fois de la proclamation de la parole et ou de la croissance de l'Église. Alors croissance en nombre ou croissance en qualité, en vertu. Et ça court tout au long des Actes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces refrains, parfois, viennent après un gros problème. On pense à Ananias et Saphira. On pense quand il y avait des veuves qui étaient négligées dans le service. Alors, on trouve des solutions, on résout les problèmes. Et ensuite, il y a ces refrains qui disent que la parole continue. Donc ça, c'est un point important. Malgré les épreuves, qu'elles soient internes, Ananias et Saphira, c'est un problème interne, c'est l'hypocrisie dans l'Église. Ou que ça soit externe, c'est-à-dire des persécutions. Eh bien, malgré cela, suite à cela, il se passe quelque chose, et puis la parole ou l'Église croit. Donc vous voyez cet enseignement qui ne peut pas être arrêté, qui va depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire là c'est Rome, le centre de l'Empire, et qui ne peut pas être arrêté. Et puis il y a ce refrain qui vient dire, mais ça continue. Alors il y a ce refrain, et puis il y a d'autres petits versets qui viennent aussi, comme des échos, hein, souligner ce point. Il y a un troisième procédé qu'on peut donner, c'est que dans les actes, il y a comme deux grands récits, ce qu'on appelle des cycles. Dans la Genèse, il y a le cycle d'Abraham, il y a le cycle de Joseph, hein, le cycle de Jacob. Et là, ici, dans le livre des Actes, il y a le cycle de Pierre, les 12 premiers chapitres, et puis les chapitres 13 à 28, cycle de Paul. Et ça structure en deux parties. Donc, deux personnages qui occupent la place principale, à tour de rôle. Et cette construction... Alors, pourtant, Paul apparaît déjà au chapitre 9, parce que c'est le moment où c'est le chemin de Damas, mais ça reste Pierre, le personnage principal. Et puis, à partir du moment où on voit les voyages de Paul, à un moment donné, il y a la rencontre à Jérusalem, et là, il y a Pierre qui a aussi une place importante. Donc, c'est pas que l'un a disparu, puis l'autre prend la place, hein, c'est qu'ils ont des ministères, mais Luc construit sous forme de deux cycles. Et c'est une comparaison, alors synchrisis pour ceux qui s'intéressent aux aspects littéraires, ces comparaisons, en fait, elles peuvent avoir deux rôles, soit montrer que quelque chose est plus important qu'un autre, ou bien qu'il y a une sorte d'égalité, d'équilibre. Et là, entre Paul et Pierre, on a un parallélisme qui nous montre des choses identiques et pas des choses peu importantes. Deux guérisons dans lesquelles il y a un détail, alors c'est des infirmes mais qui n'ont pas le même problème, mais dans les deux guérisons, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul fixe son regard sur le malade avant de lui annoncer la bonne nouvelle et le faire lever. Donc c'est acte 3 et pour Pierre, acte 14 pour Paul. Tous les deux, Pierre et Paul, vont comparaître devant le Sanhédrin. Chapitre 4 pour Pierre, chapitre 23 pour Paul. Il y a aussi des miracles étranges. Étranges, vous savez, c'est l'histoire quand l'apôtre passe, il y a des ombres et on amène les malades pour que l'ombre de l'apôtre soit sur le malade. Ou alors c'est des mouchoirs. Et quand les mouchoirs sont tombés de sa poche, ou alors du coup, ça, il y a des guérisons. Vous voyez, ce sont des guérisons un peu incroyables, on peut dire. Et en fait, il y en a pour Pierre, chapitre 5, il y en a pour Paul, chapitre 19. Tous les deux vont subir des coups de fouet. Chapitre 5 pour Pierre et chapitre 16, c'est à Philippe, hein, pour Paul. Tous deux vont ressusciter un mort. Chapitre 9 pour Pierre, chapitre 20 pour Paul. Pour Paul, c'est le jeune homme qui tombe parce que la réunion était trop longue. Et puis, pour les deux aussi, on peut citer la libération, une libération de prison un peu miraculeuse. Au chapitre 12, on voit Pierre, finalement, tout s'ouvre. On lui demande juste de se lever, de s'habiller et de sortir, mais autrement, les portes s'ouvrent. Et puis, Paul, chapitre 16, après avoir été fouetté, en fait, il y a un tremblement de terre et le geôlier qui veut se... Enfin, voilà, on voit aussi des éléments. Donc, on peut dire que ce n'est pas Pierre qui est supérieur, c'est pas Paul qui est supérieur, mais... Si on a vu les points précédents, c'est sous la direction du même esprit que des serviteurs ont travaillé et des choses extraordinaires qui se sont faites par leurs mains ou presque même à leur insu parfois, eh bien ces choses-là, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus grands que d'autres, c'est parce que l'esprit leur avait donné un travail à accomplir. Donc on a vu cette structure, l'inclusion sur l'enseignement, la parole de Jésus qui annonce le programme. Et puis, on a Pierre et Paul. Alors là encore, on va faire un petit arrêt pour voir ce programme divin, un enseignement que Yann arrête, un refrain sur la croissance. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Eh bien, je pense que c'est un encouragement à persévérer, malgré les difficultés. Parce que dans le livre des Actes, on voit des difficultés qui surgissent dans l'Église, des trucs en interne ou de la persécution, des choses. Et en fait, la parole, rien ne peut l'arrêter. Elle continue à croître. Il faut simplement accepter, voir les problèmes et les régler. Alors, les régler d'une façon ou d'une autre. Et puis, en ce qui concerne aussi Pierre et Paul, On voit c'est tel serviteur, tel autre. Et en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a eu des serviteurs. Et alors, si on pense peut-être au contexte que connaît Luc, hein, Luc c'est un des compagnons de Paul. Et à Corinthe, qu'est-ce qui se passe à Corinthe au début de la lettre aux Corinthiens, chapitre 1er? Les Corinthiens disent « Moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, moi je suis d'Apollos » et d'autres disent « Moi je suis de Christ ». Et Paul dit « Mais ce ne sont que des serviteurs, enfin le Christ, lui, il est mort pour nous, mais tous les autres ce sont des serviteurs ». Eh bien peut-être que là aussi, Luc, dans sa construction avec ses parallèles, il vient souligner que l'important, ce n'est pas tel serviteur qui a fait des choses tellement grandes, mais c'est l'Esprit Saint qui dirige les siens. Alors, on a posé une question au début, enfin j'ai posé une question, qu'est-ce qui est important dans le récit de la Pentecôte? Parce qu'il y a plein de choses, il y a un bruit très fort, il y a un vent violent, il y a des flammes de feu, il y a les langues étrangères, c'est quoi qui est important? Alors avec ce qu'on a lu et avec le projet de Luc, on peut se dire, mais ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. C'est le fait qu'il soit rempli de l'Esprit, qu'il puisse parler et que chacun, alors là, en faisant tomber la barrière de la langue, chacun entende les merveilles de Dieu, les Écritures qui s'accomplissent, la venue de Jésus. C'est ça qui est important. Alors parfois, on lit des textes et on voit des choses un peu inhabituelles. Des fois, c'est les murs qui tremblent. Dans un autre passage, il y a les murs qui tremblent. On se dit, est-ce que c'est ça qui est important, de faire trembler les murs ou de... Oui, à un moment donné, il y a eu ça qui s'est produit. Peut-être ça a attiré l'attention, ça voulait démontrer quelque chose. Mais ce qui est important, c'est surtout la présence. La présence et l'œuvre de l'Esprit. Alors voilà, on a vu ces différents procédés littéraires dans l'Évangile, dans les Actes. Ce plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc le aujourd'hui, ça nous concerne tous, c'est dire, mais c'est ce que Jésus a fait, la proclamation de l'Évangile, c'est pour nous aujourd'hui, donc soyons en éveil par rapport à cela. On a vu aussi cette question, ben, lisons les Écritures, demandons la direction de l'Esprit dans nos vies, et puis faisons cela avec prière, c'est pas avec nos propres forces, on a évoqué ça hier en discutant, des moments dans notre vie, on se dit, allez, je vais faire plus pour le Seigneur, alors, et on est là, et c'est pas avec nos forces, c'est par la prière, par son travail, et son travail il va prendre peut-être du temps, mais on peut lui faire confiance. Et puis voilà, soyons encouragés quand les choses partent de travers. Il y a des épreuves, mais le travail que Dieu a commencé en nous, c'est-à-dire chacun individuellement, et puis aussi sur la communauté chrétienne, ce travail de Dieu, eh bien il va l'accomplir. Parce que c'est Jésus, par son Esprit, l'Esprit Saint, donc, qui réalise l'accomplissement du plan de Dieu, qui est la volonté du Père et qui est conforme aux Écritures.